France Musique.
Le casque et l'enclume. Bonjour à tous, bienvenue dans le casque et l'enclume, votre séance critique sur France Musique. Tous les vendredis à midi, pendant une heure, nous passons au crible tantôt des disques, mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Tantôt des concerts, et là on y est allé à fond, faut dire qu'il y a beaucoup de très belles choses à aller voir cette semaine, essentiellement à Paris. Non pas qu'il n'y ait rien eu ailleurs, mais c'est là que nous étions nous. Les APK Salonen dirigeaient donc Messiaen et sa Turangulila Symphonie, Vladimir Jourovski avec l'Orchestre de Chambre d'Europe et Radu Lupu, l'Orchestre du Festival de Budapest en visite avec Ivan Fischer, et puis on va commencer l'émission avec quelque chose que je nomme même pas parce que j'en ai marre. Mes invités du jour, Christian Merlin du Figaro, Richard Marté d'Opéra Magazine, Emmanuel Giuliani de La Croix. J'en ai marre de quoi ? Ben, de Jonas.
Haus und links war dein Rosenstrauß und rechts warst du. Ich bat nur einen Kuss, weil ich sonst weinen muss. Doch als du hier bliebst, sprach ich zum Schluss. Im Traum hast du mir alles erlaubt. Im Traum warst du so süß. Im Traum hab ich beinahe schon geglaubt, ich bin im Paradies. Nun träum ich nur das eine allein, es möcht auch einmal wirklich so sein, dass schenkst, was ich dir geraubt, im Traum hast du's erlaubt.
C'est Jonas Kaufmann qu'on entendait ici dans cet air de Robert Stoltz, Liebes Kommando, extrait d'un film, extrait surtout du dernier disque de Jonas Kaufmann consacré à des chansons d'opérette des années 20, Berlin, Vienne, l'Autriche, l'Allemagne, tout cela, c'est romantique, c'est beau. On en a parlé déjà de ce disque, pour en dire beaucoup de bien, bien sûr, c'est une merveille. Il est paru chez Sony et Jonas Kaufmann était donc en visite la semaine dernière dans la série des grandes voix au Théâtre des Champs-Élysées avec l'orchestre de la radio de Munich à la direction Jochen Rieder qui dirige j'ai déjà ces disques-là pour le même genre de programme. Ich bin die Welt für dich, c'était le titre général. C'était samedi, elle s'y est jetée, Emmanuel Giuliani, parce que vous êtes une fan de notre Jonas, comme on sait, il était irrésistible, il paraît.
Mais bien sûr, et bah Christian oui. ne me démentira non, pas, non, non, je pense.
Pour une fois.
Oui, oui, il était irrésistible, dans un répertoire, évidemment, où tout le monde ne l'attendait pas forcément, même si on rappelle, vous l'avez dit, qu'il y a eu CD, DVD, Blu-ray, avec ce programme de comédie musicale, de chansons pour le cinéma et l'opérette donc de allemande, et il a fait ça extrêmement bien en précisant d'abord d'entrée de jeu dans un petit discours en français qui était tout à fait délicieux, mais pour les puristes qui étaient là et qui s'étonnaient de ce qu'un microphone trôna en plein milieu de la scène, il a expliqué que ce répertoire, et c'est tout à fait vrai, avait été écrit pour être chanté de cette façon, que ce soit à la radio, au cinéma ou sur les scènes des théâtres. Et donc, à part l'ouverture et la dernière pièce de Léard, il a bien expliqué donc qu'il allait chanter avec sa voix plus ou moins amplifiée. Ça a d'ailleurs déclenché une ou deux petites huées.
Ah bon, ça
voilà.
Va.
Oui,
timide.
Oui, oui, oui. Ah ouais. L'air de dire mais n'aurait-il plus de voix ? Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Et il a expliqué qu'il estimait, à son avis, être encore un chanteur d'opéra, mais que là, il adaptait voilà la technique au répertoire. Et en effet, donc à part les deux pièces extrêmes où il a bien prouvé qu'il était en effet un chanteur d'opéra qui pouvait se passer de micro, il a joué très subtilement avec cet instrument. Notamment, moi je trouve que l'exemple le meilleur pour ça a été l'extrait de Frasquita, Schatz, Ich bin die, je ne sais pas si je prononce bien.
Excellent.
Voilà, où vraiment là il a joué un peu comme un Jean Sablon allemand.
Ah oui.
Voilà, du
en
micro,
jouant avec le micro. Comme
en
ça.
Jouant avec le micro, en susurrant dans le micro. Et c'est très intéressant, notamment quand on a eu la chance de l'écouter à plusieurs reprises, de pouvoir disséquer comme ça son art vocal et son art d'interprète et son art sur les mots, parce que vraiment, évidemment, le micro amplifie, c'est le cas de le dire, cela.
Et donc, il permet de faire d'autres choses.
Et c'était une espèce de masterclass un peu de la manière et de la technique et de l'interprétation de Kaufmann. Et pour ça, c'était vraiment, vraiment tout à fait intéressant. Et avec, comme toujours, la palette de couleurs, de finesse et d'humour qu'on ne lui connaît pas forcément, parce qu'évidemment, quand on chante Mario Werther ou Lohengrin, on ne rigole pas, mais là c'était le cas.
Christian.
Mais je vais vous dire, j'y allais grognon à ce concert.
Je peux en témoigner.
Voilà, j'allais à reculons pour des tas de raisons, dont certaines ne vous regardent pas d'ailleurs. Mais enfin,
on vous a pas demandé.
J'étais beaucoup parti pendant 15 jours, j'avais voyagé. Enfin, je me posais chez moi et ressortir encore pour aller au concert pour Jonas Kaufmann. Je n'aime pas les récitals de chant, je n'aime pas ce principe du gars qui vient faire son air et qui repart et l'orchestre joue une ouverture, puis il revient faire un air tiré de tout contexte et faire son numéro. Et puis, pour couronner le tout, pendant que j'étais dans le RER pour aller au concert, je reçois un message d'amis viennois qui me disent « Ah mais oui, on l'a eu ce concert à Vienne, c'est là qu'il chante avec micro. » Donc là, je me dis
c'est
le pompon, il va y avoir un micro, ça va être sonorisé. Je n'étais pas content. Il m'a eu. Ça a duré 45 secondes. Et j'étais complètement sous le charme. Comment voulez-vous ? C'est la perfection, ce qu'il a fait. Alors évidemment, c'est vrai que la sonorisation était intelligemment faite, parce que elle était subtile. Parfois, elle disparaissait complètement à certains moments où on sentait bien qu'il n'en avait pas besoin. Puis on la remettait pour des effets sonores. Du coup, même, je me demande si ça l'a pas encouragé à faire un tout petit peu d'affectation sur certains de ses célèbres pianissimo.
Jouer sur le velouté,
voilà.
Un second degré
aussi
là-dedans.
Bien sûr. Mais surtout, moi, ce que je voudrais souligner, d'abord, peut-être pas reparler longuement du programme parce qu'on l'a abondamment commenté dans cette émission, mais le programme est vraiment intelligent parce que c'est une sorte d'axe, le mot n'est pas très heureux historiquement, mais Vienne-Berlin, pardon, c'est le premier qui me soit venu, où l'opérette et la comédie musicale sont vraiment en train d'évoluer et on a des styles différents selon qu'on est à Vienne ou à Berlin, et ça il le sent tellement
bien. Selon qu'on est aussi sur la scène et au cinéma.
Exactement, voilà. Et ça c'est remarquablement conçu. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a chez lui une sorte, je dirais, de sérieux pardon pour les clichés, mais de sérieux allemand qui fait que quoi qu'il arrive, il ne tombera pas dans le mauvais goût. Et ce ne sera jamais vulgaire. Alors qu'on peut l'être dans ce genre de répertoire. Et du coup, ça prend une ampleur et ce répertoire est mis en valeur d'un seul coup, comme de la grande musique. Et il n'y a plus de séparation entre musique légère et musique savante.
Ce qui est étonnant, quand même, c'est qu'on a l'impression qu'il réussit absolument tout. Ernest Goffman, quoi qu'il fasse en concert ou au disque, c'est toujours stratosphérique. Emmanuel ?
Stratosphérique, oui, peut-être, mais moi je ne l'ai pas entendu en direct, donc Christian va me dire ce que j'ai entendu de son trou vert. J'ai l'impression que là, par exemple, c'était peut-être Manrico, le rôle qui n'était pas totalement pour lui.
Donc il y a des moments
où on voit que, voilà.
Un petit peu sur une limite, comme sont tous les chanteurs qui essayent quelque chose.
En tous les cas, voilà, des choses lui vont très bien, d'autres moins. Mais autrement, en tous les cas, ce qui est indéniable à chaque fois, c'est l'intelligence dramatique et musicale complètement alliée, complètement en osmose, qui font qu'il est très convaincant et totalement crédible et engagé. Et voilà, et on y croit absolument.
Et puis il fait le show vraiment, aussi, il fait le spectacle, mais avec simplicité. C'est ça, Emmanuel a rappelé les quelques mots qu'il a dit en français au début. Il aurait pu en faire là aussi un numéro, mais c'est quelqu'un de simple et qui crée cette relation de proximité avec le public et même avec les musiciens. Mm-hmm. Parce que figurez-vous, par exemple, il y avait un violoncelliste de cet orchestre de la radio de Munich qui est l'orchestre B de la radio bavaroise, spécialisé dans ses récitals de chant et dans ce répertoire lyrique, léger et sérieux. Un violoncelliste du rang qui prenait sa retraite et c'était son dernier concert. Mais Jonas Kaufmann est allé lui porter un bouquet de fleurs et l'a embrassé et lui a dédié la dernière chanson de la soirée. C'était très sympa. Et ça n'était pas fait de manière démonstrative, ostentatoire ou larmoyante, quoi que ce soit. C'est fait avec une sorte de franche simplicité qui est réjouissante.
C'était donc Jonas Kaufmann avec l'orchestre de la radio de Munich au Théâtre des Champs-Élysées samedi dernier. Dernier extrait du disque quand même, on ne se prive pas.
Oh non.
Die schönste aller Frauen.
Franz Lehár, un extrait de Giulietta chanté par Jonas Kaufmann, toujours extrait de ce disque Sony consacré à quelques grands airs d'opérettes et de films berlinois, viennois des années 20-30. Ce disque dont on a déjà parlé, et là on était sur le concert de la semaine dernière au TCE. Un autre ténor, parce qu'elle les aime décidément. Emmanuel Giuliani, vous êtes allé voir Rolando Villazone, non comme chanteur mais comme metteur en scène. Ça fait quelques années déjà, il avait commencé par un Werther à l'Opéra de Lyon, qui s'est passé un petit peu de l'autre côté, Rolando, et là c'était pour une Traviata à Baden-Baden que vous êtes allé voir. La dernière représentation, ce sera d'ailleurs ce soir, pour ceux qui auront envie peut-être d'aller faire l'aller-retour fastoche de la France à l'Allemagne. Pablo Erascasado dirigeait tout cela, mais évidemment c'est pour la mise en scène qu'on y allait de Rolando. Qu'est-ce que ça nous donnait cette Traviata?
On y allait un peu pour tout, moi à vrai dire j'y allais pour... Pour Baden-Baden, ouais. qui est tellement joli en cette saison, croulant sous les rhododendrons, pour bien sûr la mise en scène de Rolando Villazone, la direction de Pablo Erascasado, magnifique, ouais. Et aussi entendre Olga Peretiatko dans le rôle de Violetta, et qui est, ma foi, très convaincante et très émouvante. Ce qui fait que ce spectacle qui n'a pas que des qualités, mais les qualités qu'il a sont des très grandes qualités, notamment des qualités d'émotion, de tendresse, d'empathie, qui font que même dans cette salle qui en effet peut être un peu pas ce qu'il y a de mieux pour la proximité vocale et visuelle, eh bien vraiment le travail de cette équipe a créé une très très grande vibration émotionnelle entre scène et salle, et que le public d'ailleurs, mais qui est très enthousiaste je crois de tradition, mais l'a accueilli avec un enthousiasme encore plus démonstratif, et c'est vrai qu'il y avait de très belles choses. Rolando Villazone, on sait, il aime l'univers du cirque, l'univers des doubles, l'univers du vrai et du faux, il a d'ailleurs écrit un roman pas mal du tout sur ce thème-là. Et donc, il situe, on ne s'en étonnera pas, cette action dans le milieu du cirque. Ça marche très bien, un tout petit peu moins bien dans le tableau de la campagne, voilà, au début du deuxième acte. Mais même pas tant que ça, parce que la scène est vidée, il y a de très beaux jeux de lumière. Ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, on voit que c'est la mise en scène d'un musicien. C'est-à-dire que toute la gestuelle, les effets de lumière, justement, de mobilité des décors, sont vraiment complètement en lien avec la musique. Et il y a des moments absolument magnifique, notamment dans le tableau chez Flora avec la partie de cartes, où vraiment la manière dont les cartes sont lancées correspond aux pulsations de l'orchestre, c'est très saisissant. Orchestre magnifiquement dirigé par Pablo Erascasado dans une vision très chambriste. Les chœurs, c'est les chœurs Balthazar Neumann. J'ai jamais entendu les chœurs de la Traviata avec ce dentelé. On se rend compte, on le sait, mais encore plus de l'écriture fabuleuse de la partie chorale, l'orchestre aussi. Ce qui fait qu'il y a des moments, par exemple, à certains moments, c'est Violetta, mais on croirait entendre les battements de cœur de Pamina. Enfin, il y a vraiment des choses. Bel cantiste, absolument magnifique. Olga Peretiatko, elle est grave, elle est aiguë, a un volume qui, moi, m'a surpris, notamment dans cette salle, est très émouvante. Alors, elle n'est peut-être pas une Traviata extrêmement originale par rapport à d'autres créations du rôle, mais elle est extrêmement touchante et tellement gracieuse physiquement. Qu'elle soit séduisante, séductrice, ou qu'elle soit malade et ployante, vraiment comme une liane. Donc, on est tout à fait convaincu. Le reste du plateau est très bien aussi. Enfin, c'est vraiment un beau spectacle.
Un beau spectacle, une belle soirée pour Emmanuel Giuliani, qui a vu donc la Traviata de Verdi, mise en scène par Rolando Villazone à Baden-Baden.
France Musique.
Et pendant que certains allaient voir des ténors, d'autres allaient voir de la contemporaine. On ne se refait pas. Christian Merlin, qui était à la carte blanche consacrée à Bruno Mantovani à Radio France tout ce week-end. Enfin, vous avez vu surtout le premier concert de vendredi, qui permettait d'entendre une création de Bruno Mantovani, et puis aussi la Sinfonia de Luciano Berio, tout ça par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Pascal Roffet. Alors,
Un programme vraiment intéressant, parce qu'on attend les créations d'un musicien comme Bruno Mantovani. On a eu quelques déceptions. On a eu parfois l'impression de la part d'un homme aussi inventif, créatif et brillant que ça pouvait tourner un peu à vide ou tourner un peu au décoratif. Et bien là, pas du tout. Sa symphonie numéro 1, c'est la première. L'idée fixe, exactement. Vaguement inspirée par Berlioz, en tout cas dans l'esprit, pas tellement dans l'esthétique, évidemment. Mais c'est une musique très impressionnante parce qu'elle joue justement sur le côté obsessionnel. Pas seulement sur le côté proliférant, comme c'est parfois le cas avec lui. Là, il creuse la matière sonore. Donc, on va vraiment à la fois dans le minéral et dans l'organique. Et c'est un orchestre très puissant et qui se déploie un peu comme une coulée de lave. Mmh. Et c'est fait de manière d'autant plus impressionnante que la tension est maintenue. Et l'intérêt est maintenu d'un bout à l'autre et il est même constamment relancé.
Pour une œuvre qui est pourtant longue.
Hein. Mais oui, elle est longue et ça c'est remarquable parce que sur la longue durée, prouver que l'on est capable de maintenir une grande arche, ça n'est pas donné à tout le monde. Et il y a notamment un passage que je n'oublierai pas, mais je pense vous non plus, vous y étiez aussi Lionel. C'est ce passage qui commence comme un quatuor à cordes, qui commence même par un violon qui fait une figure comme ça, justement très très obsessionnelle et obstinée, rejoint par un deuxième violon, et puis l'alto, le violoncelle, et ça enfle progressivement, et ça gagne tout l'orchestre.
C'est un principe de fugue, en fait, hein, mais élargi de manière...
Voilà, mais il en fait beaucoup plus qu'un procédé académique, et ça finit par vraiment vous gagner, et vous êtes électrisé.
Deux mots sur la Sinfonia, de Berlioz, qu'on avait en deuxième partie.
Ne serait-ce que d'abord pour rappeler que c'est un chef-d'œuvre absolu, que l'œuvre est de 1968, et que, bon, quand moi j'étais jeune mélomane, on appelait ça de la musique contemporaine, maintenant c'est de la musique classique, en tout cas ça devrait l'être. C'est du répertoire, ou ça devrait l'être, la Sinfonia de Berlioz. Juste un petit problème, j'ai trouvé que Pascal Roffet dirigeait ça bien dans l'esprit et que l'orchestre jouait franchement bien, mais énorme problème d'équilibre, en particulier avec les voix, puisqu'on a ces voix qui véhiculent, notamment dans le célèbre troisième mouvement bâti sur le scherzo de la deuxième de Mahler, et qui est une sorte de colportage extraordinaire de toute l'histoire de la musique. Et ben là, le déséquilibre était total entre les voix et l'orchestre. Je ne comprends pas pourquoi, alors qu'on a les moyens aujourd'hui acoustiques de régler tout ça. Et grande frustration parce que le texte n'était notamment pas intelligible, alors que c'est très souvent fascinant.
Ouais. C'était donc cette carte blanche à Bruno Mantovani le week-end dernier à Radio France. On va poursuivre, tenez, avec une œuvre qui a été longtemps contemporaine et déjà classique. L'ouverture de la Turangulila Symphonie. C'est pas Turangalila, hein, Christian? Turangulil.
Ah, vous le dites
hein
bien.
Hein. J'essaie de le dire correctement. D'Olivier Messiaen, dirigé ici par Esa-Pekka Salonen, version avec son orchestre Philharmonia. Et Salonen, justement, dirigeait le même Philharmonia dans cette Turangalila. Il y a deux jours à peine à Paris, c'était au Théâtre des Champs-Élysées, là encore, mercredi. Alors tout d'abord, Richard Martet. Je salue Richard. D'ailleurs, c'est trois semaines qu'on vous a pas vu, Richard.
Oui, effectivement.
Vous faisiez pas la tête, au moins?
Non, je faisais pas la tête. J'étais simplement, je faisais faisait des conférences sur un bateau de croisière.
C'est pas vrai. Oh, le pauvre homme.
Autour des îles britanniques jusqu'aux îles Shetland et en redescendant par le nord de l'Écosse.
On fait des métiers difficiles.
Ah oui, des fois c'est rude.
Donc je n'étais pas, mais je dois dire que revenir, je suis descendu du bateau lundi, je rentre et j'ai la Turangalila comme retour à Paris, c'est quand même
comme
assez
accueil,
génial.
C'était quand même pas...
Ah, c'est l'accueil de rêve. Là,
c'est vous qui allez commencer justement. D'abord peut-être, avant de parler de l'interprétation de Salonen, sur l'œuvre elle-même, on était tous quand même, je crois, abasourdis à quel point ça reste une œuvre incroyable.
Ça reste une œuvre incroyable, ça fait quand même quoi, plus de 60 ans maintenant. Elle a été créée en 49, donc composée juste après la guerre. Et là c'est quand même, dès les 5 premières minutes, on prend ça en pleine figure. Moi, je l'ai dit, c'est 1h20. Bon, vous le savez, Lionel, la musique contemporaine, entre guillemets.
C'est plus contemporaine depuis 60 ans.
C'est pas. Et surtout, Messiaen, il y a des choses où je me suis ennuyé, je le reconnais. Et notamment, j'ai honte de le dire, mais Saint-François d'Assise, franchement, il y a des passages où j'ai jamais accroché.
Il y a des grands tunnels.
Voilà, j'ai toujours trouvé qu'il y avait de grands tunnels, quelle que soit la force émotionnelle de l'œuvre. Là, pas du tout. C'est 1h20 qu'on prend vraiment en pleine figure. On ne s'ennuie pas un instant. C'est impressionnant, c'est émouvant. L'alternance des passages fracassants, parce que quand même, sans trois musiciens, c'est quand même quelque chose. Je crois que je préfère ça à la 8e de Mahler. Tel comme œuvre comme ça, pour moi, c'est un des chefs-d'œuvre absolus du 20e siècle. Pour moi, c'est sur le même plan que le Sacre du printemps de Stravinsky. C'est vraiment, je le vis, moi, personnellement, de la même manière.
Et pourtant, c'est une œuvre, Emmanuel, qui a quelque chose de très naïf. C'est ce qui m'étonne toujours chez Messiaen, ce mélange de très grands savants, d'intelligence et d'une sorte de naïveté complètement désarmante.
C'est-à-dire d'énorme sensualité. Donc, dans la sensualité, en effet, il y a une partie un peu, il faut y mettre des quantités de guillemets, un peu primitive, un peu immédiate, qui peut sembler naïve. Et justement, c'est la juxtaposition et la fusion avec cette extraordinaire sophistication, avec cette cathédrale sonore de timbres qui est absolument, en effet, fascinante et qui vous embarque. On en prend plein la figure et à la fin, on est sur le flanc.
Enfin, complètement,
c'est vraiment une expérience.
Mais on est heureux d'y être comme ça.
Bien sûr, c'est une expérience physique, une traversée. Et quand c'est en plus interprété de cette façon, Richard évoquait le sacre, mais c'est vrai qu'entendre ça par Salonen, c'est quand même comme entendre Amérique de Varèse par Salonen ou le sacre par Salonen dans ce type d'œuvres qui sont vraiment la création et le génie à l'œuvre devant vous, en vous, autour de vous. C'est absolument exceptionnel.
Salonen, donc, était aussi l'un des clous de la soirée. Il y en aura un deuxième avec le pianiste, on y reviendra. Mais Christian, quand même, sur le chef, d'abord.
Oui, Salonen et la Turangalila, c'est une longue histoire. Ouais. Moi, je voudrais vous parler aussi décidément, j'en suis dans les souvenirs aujourd'hui, du 25 juin 95, un dimanche au Châtelet, où il avait déjà fait Turangalila avec le Philharmonia.
Turangalila. Hein.
Pardon, oui, mais je ne peux pas rivaliser avec ça. Donc, vous m'autoriserez. J'y arrive pas.
Donc, oui, 95.
Oui, c'est un souvenir absolument magique et complètement renversant. Donc, c'est une œuvre qui lui parle depuis longtemps. En revanche, ce qui me frappe, c'est que son interprétation a évolué. Et très honnêtement, j'ai été, comme vous, très impressionné par le concert de l'autre soir, comment ne pas l'être, mais je me demande quand même si ça a évolué dans le bon sens, parce que j'ai le souvenir à l'époque d'une grande souplesse et d'une sorte de volupté, comme ça, et de flexibilité rythmique, alors que l'autre soir, il était beaucoup plus dans quelque chose de resserré, compact, au besoin même un peu sec, ce qui tient aussi évidemment à l'acoustique de la salle. On était au Théâtre des Champs-Élysées. Pendant tout le temps, c'est terrible à dire, mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire pourquoi ça n'est pas à la Philharmonie.
Ah oui.
Où le son aurait.
T'étais pas le seul à te le dire.
Voilà. Bon, le son aurait respiré davantage.
Je suis pas sûr que pour le piano. Sans ça aurait doute. Été bien la Philharmonie,
c'est
mais
possible
c'est une autre
que
question.
Non. Mais peut-être a-t-il évolué dans ce sens quand vous parliez du sacre. Effectivement, il le fait plus dans cette manière un peu sèche comme ça aujourd'hui. Pourquoi pas? C'était un tout petit peu trop pour moi, par exemple, dans les cuivres, ce côté tranchant et cinglant.
Mais c'était puissant pourtant, les cuivres.
Ah, c'est puissant, oui.
Oui, mais pas assez.
Mais pas assez de rondeur. Ouais. C'était très.
Richard?
J'étais pas il y a 20 ans au Châtelet, donc je peux pas comparer. Donc, moi, ce que j'ai entendu m'a totalement convaincu. Le petit bémol, il y en a deux, en fait. Il y a l'acoustique de la salle, d'abord. C'est vrai que c'est. En plus, ça sature un peu.
Oui,
la
ça sature.
Dans une salle comme le Théâtre des Champs-Élysées, ça sature. Il y a des moments vraiment. Et deuxième chose, et ça, à ce que je m'explique moins bien, c'est le réglage des ondes Martenot qui était vraiment trop fort, notamment dans le premier mouvement. Et à la fin, ça se concevait davantage. Il m'a semblé que dans le final, ça, c'était moins gênant. Mais pourquoi c'était réglé
si fort ? Je ne sais pas. Peut-être à cause d'une mauvaise expérience, parce que la dernière Tourangalila
au TC,
voilà, et la radio bavaroise, hein, tu te souviens,
et
on n'entendait pas les ondes
Martenot. Et les ondes, on ne les entendait pas assez.
Alors du coup, on est tombé dans l'extrême inverse.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui les ondes Martenot peut-être les sonoriser un peu différemment ? On a les moyens, quoi, de sonoriser. Parce qu'on a l'impression qu'on avait une sorte de.
Ça va être le leitmotiv
d'enceinte d'époque, quoi, Emmanuel.
Oui, ah, bah oui, oui, c'est possible.
C'est un instrument ancien. Vous êtes drôle,
de manière. On a pu apprécier à quel point elle jouait très, très bien, Valérie Hartmann-Clavry. Oui, c'était
c'est
magnifique.
C'est la
ce qui. Ouais. Mais c'est vrai, Christian évoquait la version de Jansson, ce qui était aussi absolument somptueuse, très différente émotionnellement, beaucoup plus lyrique et sans doute moins minérale, et la gestion de ces crescendo absolument incroyable que Salonen va puiser au fond de la terre pour nous mener, je ne sais pas où, en effet, dans la stratosphère. Jansson se les faisait différents. Ils allaient, ils revenaient. Enfin, il y avait une espèce de flux et de reflux. Là, on a une longue continuité. En revanche, moi, je dois dire, même s'il a joué somptueusement, que j'avais plutôt un faible pour la version plus tendre, plus magique de Jean-Yves Thibaudet par rapport à Pierre-Laurent Aymard, qui est un musicien admirable, mais qui notamment dans le sixième mouvement, le Jardin du Sommeil d'Amour, m'a semblé dans les notes répétées moins incroyable que n'avait été Thibaudet il y a 2 ans.
Enfin bon, après. Il est quand même incroyable là-dedans.
Il est absolument incroyable. Non, c'est extrêmement bien. Voilà.
C'est vrai qu'il joue à l'énergie. Il est absolument renversant, mais à l'énergie. Plus que peut-être dans la subtilité, mais comme par hasard, c'était en phase avec la direction d'orchestre en même temps. Donc, à ce moment-là, rien à dire.
Richard, dernier mot.
Il y avait une énergie incroyable. C'est-à-dire, cette énergie tellurique qu'il y a dans cette œuvre, on a l'impression que Aymard la puise par les pieds, quoi, la transmet dans les mains sur le piano, et du coup, ça détonne, ça explose, quoi. C'est un truc que j'avais rarement vu, un pianiste aussi impressionnant, quoi. Même physiquement, on a l'impression qu'il est transcendé par cette musique, qu'il se dépasse lui-même, qu'il communique quelque chose au public.
Avec les esprits, hein. Là, il est
ce qui est réjouissant comme cette soirée.
Ce qui est réjouissant, c'est de voir aussi les musiciens tellement impliqués, tellement à la fois transcendés aussi, et heureux
Je peux avoir un message personnel, oui. Une petite pensée pour quelqu'un, c'est le percussionniste qui faisait la grosse caisse, parce qu'à mon avis, il ne va pas dormir pendant plusieurs nuits d'affilée, parce qu'il est arrivé le cauchemar du musicien d'orchestre, notamment à la percussion. Il est parti tout seul alors que ce n'était pas à lui.
Ah oui.
Il a donné son gros coup de grosse caisse dans le premier mouvement, alors qu'il était 2 mesures après.
D'accord.
Il s'est tenu la tête entre les mains après, à mon avis. Dès le concert terminé, il a foncé vers Salonen pour s'excuser. Ça arrive, au meilleur.
C'est des choses qui arrivent. Bon, pour le reste, c'est comme une soirée admirable.
Ah oui.
Salonen avec l'orchestre de Philadelphie dans le Philharmonia, pardon, je vais y arriver. Dans la Tourangalila d'Olivier Messiaen, c'était donc mercredi au Théâtre des Champs-Élysées. Encore un extrait de son enregistrement. On va revenir à une question d'amour. Le développement de l'amour, c'est le 8e mouvement. aviez tout dans ce développement de l'amour, le thème de l'amour, le thème statue et même un peu de Mars Attacks. C'était la Tourangue de Lila Symphonie d'Olivier Messiaen, dirigée par Esa-Pekka Salonen.
Comment vous dites déjà?
Comment t'es quoi?
Tourangue Lila.
C'est ça.
France Musique.
Gros malin, va. Alors, l'orchestre du Festival de Budapest, c'est un orchestre qu'on a suivi au disque beaucoup avec son directeur musical, Ivan Fischer. Ils nous ont fait, entre autres, des malheurs dont on a pas mal parlé. Hein. Ils étaient en visite à Paris, à la Philharmonie, mardi. Cette fois-ci, pour un programme Brahms et deux symphonies. Troisième et quatrième, Richard Martet n'a pas été emballé par Ivan Fischer.
Non, pas vraiment. Alors, l'orchestre, si. C'est un très, très bel orchestre. Ça, rien à dire. Qualité du son. C'est un son à la fois profond, soyeux. Rien à dire, quoi. Là, la direction, alors là, pas du tout. Non, vraiment pas, mais absolument pas. Alors, j'ai trouvé, que ce soit dans la 3 ou dans la 4, complètement déstructuré. Moi, j'aime bien que, surtout dans une symphonie, on mette un discours de la première à la dernière note. J'ai pas entendu un discours. J'ai entendu, dans la quatrième, au moins, des très beaux moments, notamment la fin, que j'ai trouvé, le dernier mouvement, je l'ai trouvé plutôt réussi. J'ai trouvé le début complètement raté. Vous savez, Christian le dit de temps en temps, quand je m'ennuie, je commence à tourner la tête, à regarder ce qui se passe. Et il était à côté de moi.
Et là, vous avez vu beaucoup de choses.
Voilà. Et là, j'ai vu beaucoup de choses. Là, je me suis dit, ça m'intéressait pas, quoi. Ce que j'entendais, voilà. Ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'émouvait pas. Ça ne me touchait pas. J'étais à côté. Et toute la troisième. En plus, la troisième, moi, j'aime bien qu'il y ait une atmosphère sombre. Dans tout le début de la troisième, j'aime bien un côté brumes écossaises, et c'est pas parce que je rentrais d'une croisière autour de l'Écosse.
On dit ça.
Voilà. Et là, pas du tout. C'est une lecture assez claire, assez, pas transparente, parce que je pense qu'on peut le faire encore plus transparent que ça, mais claire, privante. Et moi, j'aime pas ça. Mais c'est une question personnelle, quoi. Je répète, l'orchestre jouait somptueusement.
Ouais, Christian?
Oui, je vais être plus positif que Richard, mais sans non plus tomber dans le dithyrambique exprès pour avoir un avis opposé. J'ai mieux aimé que Richard. Ça, c'est certain, c'était clair après la troisième, hein, où je sais très bien quand mon voisin s'est ennuyé. Et du coup, j'essaye d'éviter la conversation dans ce cas-là. Mais bon, il m'a demandé mon avis. Je dis, mais moi, j'ai aimé, en fait. Je me sentais presque un peu honteux. Non, pour résumer, Ivan Fischer, c'est quelqu'un que je suis avec plaisir et intérêt, qui est un musicien très intéressant, et notamment dans la recherche d'une musicalité, d'un son pas globalisé, on va dire. C'est quelqu'un qui est très dans la recherche de ce que pouvait être un son d'Europe centrale, peut-être viennois. Il a d'ailleurs la disposition viennoise, hein, avec les contrebasses en ligne au fond de l'orchestre, tout derrière. Il est le seul, à part Vienne, à adopter cette disposition très intéressante.
Donc, il fait partir les basses du fond,
exactement, c'est ça. Voilà. Et qui n'écrase pas, du coup. Ça aère l'édifice. Je l'ai adoré dans Mahler, je l'ai adoré dans Dvorak.
C'est
une
très
des
bien,
plus belles huitièmes de Dvorak. Je ne suis pas sûr, en effet, que Brahms soit... Et c'est un bon beethovenien. Je ne suis pas sûr que dans Brahms, il ait trouvé la clé exacte de cet univers si complexe. Donc, voilà, si Richard dit que c'est irrégulier, je suis obligé de dire oui. L'intérêt est irrégulier, c'est vrai. Mais quand c'est bien fait, c'est vraiment très bien fait. Et je ne suis pas contre un Brahms, justement, pas brumeux, mais... qui apporte une transparence et un lyrisme que je trouve très attachant. En revanche, parfois, j'ai pas toujours compris pourquoi, effectivement, d'une section à l'autre, il changeait comme ça de tempo, par exemple, ou de texture orchestrale, comme s'il hésitait entre le côté un peu chambriste et le côté grand symphonique. Donc, disons qu'il se cherche encore.
Peut-être y avoir les deux dans certaines symphonies de Brahms.
Mais oui.
Le tout, c'est de voir comment ils les articulent.
Exactement. Là, ça ne s'articulait pas toujours très bien, mais c'était toujours intéressant, néanmoins.
Intéressant, vous n'avez pas été transporté non plus,
j'ai l'impression. Non, je ne suis pas sorti de là enthousiaste. Mais par exemple, vous voyez, il y a quelques semaines, on a eu la première, la deuxième et la quatrième par Eschenbach, avec le Philharmonique de Vienne, qui est censé sonner plutôt léger, soyeux. Et Eschenbach les avait fait sonner, au contraire, vraiment dans l'attaque et dans la puissance un peu surdosée, survitaminée. À la limite, je préfère, comme l'a fait Ivan Fischer l'autre soir, vous voyez. Mais c'est pas encore ça.
On va l'écouter ici, Ivan Fischer, dans l'un de ses derniers disques, puisqu'il s'occupe beaucoup de Brahms. En ce moment, il l'enregistre même avec justement l'orchestre du Festival de Budapest. C'est ici la deuxième symphonie.
Thank you.
Ivan Fischer avec l'orchestre du Festival de Budapest dans cette deuxième symphonie de Johannes Brahms au disque. Mais c'est plutôt bien ce moment-là.
Mais s'il avait tout fait comme ça, au
bout d'une minute, hors micro, j'ai dit à Christian, tu vois Christian, quand c'est comme ça, c'est bien. Mais c'est pas ce qu'on a eu mardi soir.
C'est pas ce qu'on a tous les bons. Très bien. C'était donc le concert d'Ivan Fischer mardi à la Philharmonie dans Brahms. Je vous signale que ce concert, on pourra le retrouver sur France Musique dans les concerts d'après-midi d'Anne-Charlotte Raymond le 11 juin. Christian Merlin, vous n'arrêtez pas, vous avez eu tous les concerts du jour. Vous êtes sorti combien de fois cette semaine? 4 fois?
Tous les soirs.
Bah, il aime ça, on comprend, remarquez. Hier, vous étiez donc à nouveau à la Philharmonie, pour cette fois l'orchestre de chambre de rock, Vladimir Jourovski à la baguette, et Radu Loupou, le grand, qui était au piano pour le 24e concerto de Mozart. C'était comment le concert?
Ah, passionnant.
Ah oui?
Absolument passionnant. Pour être tout à fait exact, c'était à la Philharmonie 2, donc l'ancienne cité de la musique, la petite salle. Très approprié d'ailleurs pour l'effectif de l'Orchestre de Chambre d'Europe. Ben, en deux mots, Vladimir Jourovski est un chef, extrêmement inventif dans ses programmes et dans sa manière de concevoir le concert. C'est quelqu'un qui se révolte un peu d'ailleurs contre les programmations hyper conventionnelles qu'on a de plus en plus dans les salles de concert pour remplir les salles. Et quand lui propose des programmes de tournée aux organisateurs, et bien souvent il se fait retoquer parce qu'on lui dit « mais non, ça on n'y arrivera pas, on remplira jamais, mettez plutôt la pathétique ». Et ça lui déplaît. Donc avec l'Orchestre de Chambre d'Europe, qui est cette formation indépendante et qui fait ses propres choix artistiques, là, on peut le faire sur un projet de longue haleine. Et du coup, il aime bien concevoir des programmes. Par exemple, là, il y avait une sorte de cohérence ou de maillage entre Mozart et la musique tchèque, autour de la symphonie Prague, évidemment, comme point culminant du programme, mis en regard de compositeurs tchèques du XXe siècle. Il y avait Martinů avec le double concerto pour orchestre, enfin double orchestre à cordes, piano et timbales, qui est de la magnifique musique, vraiment à redécouvrir. Donc, il met en valeur les cordes de l'orchestre. Ouais. Et puis, le sextuor avant, Mladi, de Janáček, voilà, et qui met en valeur, cette fois, les vents de l'orchestre. Donc, tout est pensé dans ces programmes, parfois un peu trop, parce que c'est un chef qui certaines fois, moi il me fascine, mais certaines fois il m'a un peu déçu par son côté trop intello et trop disséquant la musique, mais hier j'ai trouvé ça extrêmement convaincant.
Emmanuel Giuliani.
Oui, d'abord insistons sur la sonorité de l'orchestre qu'on a pu entendre dans sa cohésion et aussi, comme l'a dit Christian, avec des pupitres plus ou moins mis en valeur, et vraiment c'est un orchestre très très enthousiasmant. Et donc ça c'est vraiment agréable de les voir et de les entendre jouer. C'est vrai que ce concert, comme pratiquement à chaque fois qu'on programme du Martinů, est une pierre de plus à l'édifice en disant « Quand vous voyez du Martinů au programme, allez-y, vraiment, quel compositeur merveilleux à la fois, et cette œuvre, cette symphonie, est à la fois pleine de charme et de puissance, avec, comme Christian le disait de manière différente à propos de l'œuvre de Mantovani, elle tient en haleine du début à la fin, ça ne faiblit jamais, alors qu'il y a des contrastes infinis et des effets de sonorité, de contrebasse. Enfin, vraiment, vraiment, c'est une pièce magnifique. De la même manière, le Janáček qui ouvrait la deuxième partie avant cette si belle symphonie Prague est aussi vraiment un bijou qui nous replonge dans ces ambiances bucoliques, charmantes, humoristiques et mélancoliques à la fois de la petite renarde rusée, tout à fait. On est dans ce monde-là et c'était magnifiquement interprété.
Et Radu Loupou, alors, vous ne parlez pas tous les deux.
Voilà, j'essayais de reculer. Mais je vois bien que mon stratagème est déjoué. Radu Loupou, je vous avoue que j'ai été pas mal déçu, j'ai trouvé que c'était très très lymphatique et que l'orchestre se calquait un peu sur lui-même, sur lui, enfin non pas sur lui-même mais sur Radu Loupou, et il y avait une espèce de mollesse générale, alors traversée à des moments par des éclairs, par des moments de poésie où on se disait ah ça y est, et puis non, ça retombait aussitôt, donc je trouve que c'est bien dommage et ce concerto est paru presque ennuyeux, alors que Dieu sait que les concertos pour piano de Mozart, ce 24e en particulier, c'est tout sauf ennuyeux. Et là, j'ai attendu un peu que ça se passe, alors que quand la symphonie Prague est arrivée, là, on a retrouvé cette sève, cette grandeur et cette beauté mozartienne en plein.
Mais clairement, ils ont travaillé ensemble, là. Mmh. Et Radulupu n'est pas le plus facile à accompagner parce qu'il a ses idées musicales et son univers. Et quand il arrive juste pour la dernière répétition d'un concerto dans un concert d'abonnement classique, on fait un filage et on n'a pas le temps de s'entendre. Mmh. Là, Yurovsky et lui ont visiblement beaucoup communiqué. Et c'est vrai que Yurovsky s'est adapté à la vision de Radulupu. Du coup,
ils ont un peu avalé des somnifères mais ensemble alors, avant
le concert. Un 24e de Mozart très lent, c'est vrai. Au début, quand ça commence, je me dis, mais c'est pas possible d'être lent comme ça. Est-ce qu'ils vont tenir jusqu'au bout? Oui, ils ont tenu jusqu'au bout ce parti pris de lenteur, un peu désénervé, bon. Je ne sais pas, émolliante, appelez ça ce que vous voulez, mais moi je dois dire que une fois que j'ai compris que ce serait le parti pris, j'ai vraiment essayé d'entrer dedans et j'avoue qu'il nous a emmené quelque part quand même Radulupu, parce que même dans ce côté extrême, presque expérimental hein, de façon de jouer ça comme ça, Il le joue en poète, malgré tout. Alors, c'est vrai qu'on peut regretter parfois qu'il n'y ait pas plus d'attaque, plus de relance, mais ça devient quelque chose d'un peu rêveur, onirique, mais méditatif. J'ai été touché par ça, même si ça ne ressemble à rien d'autre.
C'était donc un concert entre Vladimir Jourovski et Radulupu, l'orchestre de chambre d'Europe, hier à la Philharmonie de Paris. On va illustrer tout cela avec Jourovski lui-même, dirigeant ici Ralph Vaughan Williams. C'est un de ses derniers disques avec l'Orchestre Philharmonique de Londres. Thank you. J'attends pas cette musique, hein, curieuse. Ce scherzo de la 8e symphonie de Ralph Vaughan Williams, c'était Vladimir Jourovski qui dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Londres. Merci à mes invités du jour, Emmanuel Giuliani, Christian Merlin, Richard Martet. L'émission a été préparée par Françoise Montaille, réalisée par Antoine Courtin, avec aujourd'hui Thibaut Nassimben et Ben Kachmarek.